juste pour... Donc, vous voyez, Manon n'est pas là ce matin. Quand je suis venu il y a deux semaines, je ne sais pas où j'ai pu prendre un microbe. Ils appellent ça un microbe COVID. Je ne sais pas qui l'avait, où je l'ai eu à quelqu'un. Mais c'est Anne Edmundston. Si je rencontre la personne, je vais dire, attention, alléluia. Donc, Manon, elle est complètement sur le dos. Hier, je parlais avec, elle disait, ouais, ça va un petit peu mieux, tant mieux. Moi, je l'ai eu, c'était quand même quelque chose de solide. En plus, j'ai eu le zona en même temps. Donc, mardi, j'ai appelé mon frère Stéphane. J'ai dit, Stéphane, tiens-toi prêt. Je ne sais pas si je vais être capable de monter parce que vraiment, j'étais dans tous mes états physiquement faibles. Et donc, Dieu m'a fait grâce. Mercredi, j'ai commencé à reprendre des forces et ça va beaucoup mieux un peu parler du nez, je pourrais dire. Mais le reste va bien. Alléluia! Fait que je ne suis plus COVID, donc juste vous rassurer, là, on a bien testé la machine avant de partir. Fait que ça a marqué un négatif. Je dis OK, je peux monter. Fait que gloire à Dieu! Donc, qu'est-ce que j'aimerais partager un matin? J'aimerais parler... Vous savez, l'Église, ou nous, en tant que chrétiens, j'avais l'image cette semaine d'un arbre. Un arbre qui doit donner des fruits. Allô? Donc, je voudrais parler ce matin sur l'amour. L'amour qui doit donner son fruit. Et en tant qu'Église, je pense que l'amour, on n'a jamais assez. Moi, je vais prendre l'illustration chez nous, ben, pas d'un humain, mais on a un petit chaton, un chat. Il est tellement affectueux que Manon, des fois, elle dit, il lâche pas. Il veut de l'affection. Et donc, l'Église, c'est un lieu aussi qu'on doit donner de l'affection. Alléluia, on se reconnaît à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Mais ce matin, j'aimerais ça prendre le temps de regarder... d'aller plus loin à travers cette image qui m'est venue. Et j'aimerais vous partager ce matin la culture du royaume en expansion. Donc, j'aimerais lire avec vous Matthieu, chapitre 20, et on va lire du verset 25 au verset 28, qui nous dit, « Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, ce matin. Premièrement, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, pour les chants. Seigneur, pour qu'ils nous libèrent, qu'ils nous emportent, Seigneur, dans un temps qu'on veut se prosterner devant toi, jeter nos couronnes devant toi. Seigneur, parce que tu es digne d'être élevé, digne d'être loué et adoré. Seigneur, ce matin, à travers la parole, viens nous encourager. C'est quoi d'être un serviteur? Père, je te prie que ta parole puisse tomber dans une bonne terre ou que la semence va prendre vie. Seigneur, nous avons besoin de réaliser que c'est toi qui donnes la vie. Mais Seigneur, il faut réaliser aussi qu'on a un chemin à faire. Et Père, ce matin, que la parole soit encourageante, fortifiante, relevante, bénissante et libératrice. Père, dans le nom de Jésus que je te prie, amen et amen. Vous savez, dans notre texte, juste un peu vous donner le contexte, Jésus venait juste de dire avant, qui sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, qui sera condamné à mort et qui va être livré aux païens, qui vont se moquer de lui, qui sera battu, qui sera crucifié, qui va se ressusciter après trois jours. Et la mère de Zébédée va aller voir Jésus avec ses deux fils et elle va se prosterner devant Jésus et elle va lui faire une demande. La demande de cette femme, elle veut que ses deux fils soient assis dans le royaume de Dieu et Jésus va dire, pour ce qui est assis à la droite ou à la gauche de mon père, et c'est pas moi qui prends la décision, ça va être mon père. Et donc, les 10 autres apôtres, les 10 autres serviteurs sont avec Jésus, mais ils ont entendu la demande de la mère de Zébédée. Donc, il y a de la friction. il y a de la jalousie dans les airs. Qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu et qui va s'asseoir à côté de Jésus? Donc, sa mère veut le meilleur pour ses enfants. Et là, Jésus, je pourrais dire, va prendre la balle au bon. Et Jésus va leur apporter certains principes importants du royaume des cieux. Jésus va commencer à leur expliquer comment ça fonctionne dans le monde. Jésus leur explique que certains chefs politiques exercent de la pression sur le peuple par leur pouvoir, par leur autorité, et que les plus puissants encore abusent de leur pouvoir et de leur autorité. Donc, ces gens que Jésus parle de ces grands ne sont pas là pour servir les gens, mais c'est des gens qui regardent juste à leur pouvoir et juste à leur autorité politique. Donc, Jésus va leur dire, pour vous, ça ne marchera pas comme ça. L'enseignement que Jésus veut nous donner à travers ce texte, Jésus est venu pour que le royaume de Dieu soit différent de la pensée du monde. Parce que notre royaume n'est pas la même culture que la pensée du monde. Dites-moi un gros amen ici. C'est la vérité, c'est les choses sont différentes. La Bible sommaire, je vais revenir avec la Bible sommaire, le même verset, Matthieu 20, versets 26 et 28. Je vous lirai une autre version. Il ne faut pas qu'il soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur. Qu'il se fasse le domestique de tous des autres. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être esclave de tous. Tout comme le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour se faire servir par les autres, mais pour servir lui-même et donner sa vie pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Voyez-vous, il y a une contradiction comment que la femme, les fils de Zébédée voyaient, et Jésus est en train de remettre de l'ordre dans tout cela. Nous voyons que Jésus a un message à donner. Donc, il faut être familiarisé avec le royaume de Dieu. Je dirais qu'il y a des caractéristiques, des qualités qui doivent s'appliquer dans nos vies pour que nous soyons familiarisés avec le royaume de Dieu. Une des premières choses que Jésus a fait, c'est la bienveillance. Jésus c'est-à-dire que Jésus s'occupait des autres. Jésus n'avait pas de favoritisme envers les autres. Et dans une église, en tant que peuple, il ne va pas avoir de favoritisme entre nous. Je l'aime, je ne l'aime pas. Lui, ça ne marche pas comme ça. Aux yeux de Dieu, on est égaux. Donc, comme la mère de Zébédée, les fils de Zébédée qui veulent assis à la droite de Dieu, donc ça ne marche pas. Nous sommes tous de la même famille ce matin. Un seul père, un seul fils, un seul esprit, vous serez d'accord avec moi, qui nous conduit à marcher ensemble, car on a tous de la valeur aux yeux de Dieu, peu importe qui vous êtes. Ça veut dire que nous ne devons pas se sentir non plus supérieurs aux autres. Allô? C'est pas les titres qui font de nous qu'on est meilleurs que les autres. On dirait parce que des titres, des fois, on se pète les bretelles. C'est pas ça. Ça marche pas comme ça dans l'Église. Donc, on ne doit pas se sentir supérieur aux autres, ou mieux que les autres, mais plutôt de porter attention aux personnes qui sont à côté de nous. Plutôt que de regarder les défauts, plutôt que de les juger, plutôt qu'avoir des préjugés. Donc, il faut être familiarisé, avoir des relations positives entre nous. Dis-moi un grand amen. J'ai besoin d'une relation positive. Chacun de nous a des besoins différents, mais nous sommes aimés aussi de Dieu. Et quand on a des bonnes ententes, ça crée également des bons liens. Ça nous amène à nous aimer, à moins à se comparer aux autres, d'être moins centré sur soi, moins jugé, moins critiqué, ce qui évite des frictions inutiles. Combien sont d'accord avec ça? Comme dans le cas de notre lecture, je pourrais dire ce matin, je le répète, il n'y a pas de place au favoritisme. Les 10 ont entendu cela, ils sont frustrés parce qu'eux autres aussi veulent être avec Jésus, aller le rejoindre également. Ça ne se passe pas, ils se sentent tassés et Jésus doit abaisser une crise qui est en train de se manifester. Donc, oui, il y a des crises et Jésus, ça, il a pris de la sagesse pour abaisser cette crise. Donc, de savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Nous devons réaliser ce matin, avant toute chose, c'est quoi servir? C'est quoi être un enfant de Dieu? En premier lieu, sans exception, pour chacun de nous, nous devons connaître la nature de notre roi. Connaître le cœur de Dieu. Et je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, j'avais lu quelque chose qui m'avait percuté, vraiment percuté. C'est quoi le royaume de Dieu? Qu'est-ce que l'amour de Dieu? C'est quoi l'amour du Père? Donc, j'ai voulu que je dise, Seigneur, apprends-moi. Puis je suis dans une grande école avec ça, parce qu'on a toujours à apprendre à découvrir le cœur de Dieu. Il n'y a pas personne qui est rendu à l'excellence. On a tous besoin de s'approcher du cœur de Dieu pour comprendre le cœur. Donc, si nous voulons marcher sur ses traces pour devenir des bons concitoyens du royaume de Dieu, par notre nouvelle naissance, la régénération par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a commencé en nous une bonne œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi que Paul cite dans Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, ce texte nous dit que Dieu a commencé en vous quelque chose. Et ça veut dire ici qu'il va emporter des ajustements. Puis c'est pas évident d'emporter des ajustements. Dis à ton frère, pas facile. Pas facile. Et pas facile. Alléluia. Des changements qui viennent nous transformer. Si c'est votre désir, naturellement, d'être transformé. Le salut, vous savez, c'est un avant-goût, ce qui nous réserve l'éternité. Mais entre-temps, nous vivons sur cette terre et je dois développer c'est quoi être un serviteur. Paul nous enseigne que par notre nouvelle naissance, nous avons été marqués d'un sceau. Lisons ensemble. 2 Corinthiens 1, verset 22. « Était marqué d'un sceau, il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. » Donc, ici le sceau, c'est une marque qui était empruntée autrefois lorsqu'un roi écrivait une lettre ou un officiel du roi. Donc, quand la lettre était écrite, on scellait la lettre et on prenait un tampon qui était gravé de l'autorité royale. On mettait ça sur la lettre. Le tampon appuyait ça, venait sceller la lettre et ça prouvait de où venait la lettre, l'identité de qui était donnée. Donc, c'était identifié, authentifié. Et Paul nous cite, Éphésiens 1, verset 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en vous, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel qui est un gage à notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Donc, une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, que nous avons cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit me le confirme en mon esprit que je suis son enfant. Je suis adopté, je suis plus orphelin, je suis de nature divine. Le Saint-Esprit vit en moi. Le sang de l'agneau m'a scellé pour lui. Alléluia! C'est le sceau royal qui est sur votre vie. C'est l'approbation que vous êtes scellé à travers l'alliance de sang que vous avez faite avec lui. Ce sceau équivalait à 4 grandes vérités. Donc, ce sceau, c'était un sceau de sécurité, d'authenticité, de propriété et d'autorité. C'est la même chose dans notre vie. Quand ce sceau est sur notre vie, nous sommes la propriété du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Ce sceau est scellé, le sceau est approuvé et approuvé que Dieu vous a adopté et nous allons rentrer dans les promesses de Dieu. Un jour, hallelujah, nous allons vivre avec l'éternité pour Jésus-Christ. Donc, c'est un acompte que le Saint-Esprit vient mettre sur votre vie qu'un jour vous allez vivre et régner avec lui. Également, le Saint-Esprit scelle votre vie et met en vous les arts de l'Esprit, soit les fruits de l'Esprit. Cela veut dire que je dois être, vous, moi, tout le monde, chrétien, doit être éduqué de façon royale. Parce que vous êtes des enfants. Dites-le. Il n'y a pas de mal à dire. Vous êtes des enfants royaux. Donc, comme Moïse, vous savez, qui a été élevé dans la maison de Pharaon pour qu'il apprenne à se comporter en prince, parce que c'est un prince, Pharaon, et donc, il doit avoir des valeurs princières, de bien être éduqué dans la royauté et bien se comporter. Et de ne pas avoir la mentalité de rébellion et d'esclavage. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché et de la maison de Pharaon pour vivre dans un nouveau royaume où le Saint-Esprit désire nous éduquer, nous instruire de façon royale pour que notre mentalité charnelle soit délaissée pour se comporter royalement. Soit de se comporter comme des enfants royaux, car nous sommes de la race royale. Je vous dis ça en toute honnêteté, quand on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que c'est royal. Nous avons un avocat qui plaide notre cause, un avocat royal. Nous servons un roi, un gouvernement. Vous représentez la royauté de Dieu dans notre vie et sur votre vie. Notre éducation, c'est de développer de bons comportements, de bonnes attitudes et de bonnes actions. Dites-moi un gros amen. Quand vous éduquez vos enfants, vous les reprenez, vous les éduquez, vous voulez qu'ils marchent de la bonne façon. C'est la même chose avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu. Donc, notre constitution, elle est royale. La Bible, c'est grand. La Bible est là pour nous parler, nous relever. Je représente ce roi, ce royaume. Et cela, ça veut dire qu'en tant que représentant du royaume des cieux, j'ai un code de conduire à démontrer mon appartenance avec mon roi et avec ma famille. Donc, je dois démontrer quelque chose. Donc, c'est-à-dire que dans ma imperfection, je dois dire, « Seigneur, change. Allô? Je suis ton représentant. Mon salut, c'est la démonstration de mon changement intérieur. » S'il n'y a pas de changement, ce n'est pas normal. Jésus s'intéresse à mon développement. Chacun de vous représente le royaume de Dieu. Et pour avancer à travers le royaume de Dieu dans notre monde, il faut marquer nos marques, nos territoires, de comment la société nous voit comme chrétiens. Vous savez, je parle aussi de comportement. Notre façon de parler, notre engagement, notre attitude, notre amour, dégageons-nous le bon parfum de l'Évangile, le parfum du roi, la bonne odeur du roi pour notre éducation. Alléluia! Est-ce que les gens sentent ça sur nos vies? Allô? Parce que si nous, on est capable de juger les gens à l'extérieur, les gens de l'extérieur sont capables de nous juger. Et c'est vice-versa. Donc, est-ce que les gens, quand on les approche, ont le désir de se procurer le bon parfum? Ou, je vais vous dire, d'où vient ton bon parfum? Où as-tu acheté ton bon parfum? Être sauvé, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est merveilleux. Mais tu ne peux pas rester là. Il faut que tu te développes à quelque part. Si nous voulons un impact dans la vie de nos gens, il faut que le monde constate notre appartenance à Jésus-Christ. Jésus désire que nous soyons des bons concitoyens, royaux sur la terre. Nous sommes la lumière et nous sommes le sel de la terre. Nos fruits doivent être bons et abondants, c'est-à-dire avoir une vie remplie de l'Esprit. Et ce matin, je ne veux pas parler des miracles puis des signes. Non, ce matin, je veux parler des fruits de l'Esprit. C'est un fruit. Et les fruits sont là, sont importants. Alléluia! Donc, l'amour, c'est un fruit qui doit se multiplier. Garde la personne à côté de toi. Il faut que je multiplie le fruit de l'amour. Il faut que l'amour se manifeste dans ma vie. Alléluia! Et l'image que j'avais, c'est un arbre qui doit donner du fruit. Donc, si vous allez dans le temps des fraises, vous attendez à avoir des fraises. c'est un bon fruit. Les gens veulent manger des bons fruits, c'est des fraises. Si nous voulons que notre arbre soit en bonne santé, je dois entretenir mon arbre. Ça commence par, naturellement par la prière, par la lecture, par l'obéissance, par des changements d'attitude, de comportement, de refléter les comportements de Christ. Parce que notre relation avec le Seigneur est importante. Il faut, je dirais, quand nous prions ou que nous marchons avec Dieu, la prière, la Bible nous dit que la Bible, la parole de Dieu est comme un miroir. Donc, quel miroir? Quand je me regarde dans le miroir, le Seigneur peut-tu dire, « Hey, je ne suis pas content de toi. Allô? Hey, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas ça. » Ou « Qu'est-ce que tu fais? J'aime ça. » La parole, elle nous parle. Alléluia! Donc, une fois qu'on est conscient de ce que Dieu nous demande, c'est là que ça commence à changer. Mais si tu n'es pas conscient qu'il faut que tu changes, mais tu as un problème. Allô? Donc, la parole est un miroir. Elle te dit, pas content de toi. Allô? Je sais que vous allez dire au moins, mais c'est une vérité parce qu'on passe tout dans ce cheminement-là. C'est à nous de s'ajuster avec le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. C'est le commencement de la transformation de la grâce de Dieu. Vos ajustements, nos caractères, nos comportements. Chacun de nous a du travail à faire sur sa vie. Est-ce que je suis seul ou vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez vous aussi à changer? Ou je suis seul, il faut que je change? Allô? Et Paul va nous enseigner comment s'aligner avec le roi. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Oh, j'aime le mot patience parce que ça me travaille encore. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Une manifestation véritable du royaume des cieux va comporter des fruits. Le Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en vous, je l'apporte partout où que je vais. Vous êtes d'accord avec ça? Et je dois, partout où je vais, de démontrer les fruits. Les gens nous reconnaissent à quoi? À nos fruits, à nos actions. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être transformés. Dis à ton frère, j'ai pas fini d'être transformé. Non, je n'ai pas fini. Alléluia. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu. Notre langage, notre attitude, nos comportements, notre entraide envers les gens, nos actions parlent d'eux-mêmes. On se reconnaît aux fruits. Et Matthieu 7, 16, vous les reconnaîtrez aux fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Donc, mon raisonnement, est-ce que les gens peuvent venir vers ma vie et cueillir un bon fruit? Ou on les laisse perplexes? Posez-vous la question, là. C'est une bonne question. Quand nous disons que nous sommes chrétiens, les gens sont frileux. Oh, lui, ça sec, lui, son église. Tu sais, là, on connaît le langage. Mais Jésus a démontré la façon d'attirer les gens vers lui. Jésus, premièrement, était amour, il était rempli de compassion. Il parlait du royaume de son Père, de son amour, des solutions, de l'espérance de la vie. Il a nourri 5000 personnes, 5 pains, 2 poissons. Il a manifesté son amour, guérissant les gens, chassant les démons. Il apportait le soutien moral aux plus démunis. Il aimait les enfants. Son langage était rassembleur. Et je pense que la force de l'Église, c'est être rassembleur. Je ne serais pas d'accord sur tout, puis vous avez le droit. Puis moi aussi, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec vous. Mais quelque part, il faut avancer. Il faut être capable de faire sa part de... Allô? Les gens aimaient Jésus. Jésus dégageait l'espoir. Son amour était contagieux. Les gens pouvaient toucher Jésus. Jésus a démontré son amour et ses fruits en devenant le serviteur du peuple. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire, l'Église, d'être des serviteurs du peuple. L'Église, ça se construit pas sur son nombriliste. Moi. Non, ça marche pas, là. L'amour, c'est l'amour du service. D'être des gens qui vont reproduire les fruits dans la vie des gens pour que je devienne à mon tour le reflet de l'amour du Père en Christ. Par ma nouvelle naissance, le Saint-Esprit a mis cette semence en nous. Et qu'est-ce qui est intéressant, ou que je m'en viens dans ma deuxième partie, chacun de vous, à votre nouvelle naissance, la semence qui a été mise en vous et en moi, c'est l'amour. C'est la première chose qu'il a fait. Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe pas, point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La première chose qui nous a été donnée, c'est l'amour. L'amour, c'est l'essence même de Dieu. 1 Jean 4, verset 16, « En nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » L'amour. On aime dire ça, amour, mais amour, c'est gros. Quand on comprend amour, on comprend sacrifice. Si Dieu est amour, il faut développer le fruit de l'amour. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, pour cela, il faut que je demeure en lui. Soit de rester attaché, je dirais, au cep, nous sommes ses serments. Et le Saint-Esprit veut emporter la vie à nos serments. C'est du cep que vient la vie. En lui coule la sève de vie qui coule dans l'homme nouveau. Chacun de nous, moi inclus, doit mettre l'amour en application. Et je me souviens de mon premier surintendant, je vous le dis souvent, Pierre Bergeron me disait, « Serge, ça ne tirera pas des abeilles avec du vinaigre. Tu vas les attirer avec du miel. C'est leur nature, ils font du miel, pas avec du vinaigre. » Et je n'ai pas toujours bien compris dans le début, mais la portée de nos mots, la portée de nos actions, la portée de nos comportements, la portée de nos attitudes, la portée des gestes d'amour envers nous en travers notre société, c'est la plus grande force pour faire reculer le monde des ténèbres. Deuxièmement, et la plus grande force pour nous, c'est d'être des rassembleurs d'unité pour gagner le territoire dans le monde des ténèbres. Vous comprenez? C'est l'inverse qu'on est en train de dire. Si tu veux grandir, l'amour doit être en premier. Les fruits de l'esprit deviennent importants. Je veux juste lire 1 Corinthiens 13, verset 4, juste ce verset-là. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Le mot amour, ici, c'est le mot agapé. Et le mot agapé, c'est l'amour fraternel. C'est l'affection. C'est la tendresse qu'on va donner aux autres. C'est un amour de bonne volonté qui regarde aux besoins des autres. Ça veut dire qu'on regarde, comme j'ai dit tantôt, pas juste à moi, mais je regarde aux besoins des autres. Souvent, le problème, puis je ne parle pas d'ici, je parle de partout, le problème de la vie chrétienne, c'est notre égoïsme. On est trop centré sur nous autres, pas assez centré sur les autres. L'amour doit devenir serviable. C'est une qualité morale qui nous pousse à faire du bien envers les autres. Vous regardez aux besoins, vous regardez aux besoins des gens. Vous aimez les gens, même s'ils sont différents que vous. L'amour n'a pas de favoritisme. Et je veux le dire, c'est un gros point où souvent ça va barrer dans les églises. Je me souviens, bon, je sais pas, c'est comme pasteur, je sais de quoi je vous parle, les petites cliques du dimanche matin, on se rencontre au restaurant, puis on fait du pasteur du barbecue. On se parle des uns des autres. Allô? Tu sais, j'ai passé par là. Je sais de quoi je vous parle, là. Tiens, le pasteur, tiens. Pas facile de trouver des pasteurs, hein? Laissez-moi vous dire que nos comportements, la condamnation, le mépris, c'est pas la meilleure chose. Sois pas fier de cela. Mais regardez les besoins. Quand on regarde les besoins, on commence à réaliser que tellement de travail à faire qu'on commence à arrêter de chialer sur tout le monde. L'amour, c'est serviable. On est prêt à rendre service. Regardez 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Si vous voyez les besoins, investissez. Démontrons notre amour, soyons des gens libéraux. Notre amour est important, des gens souffrent. Sois une personne aidante, sois une personne qui va être là pour elle. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia! L'amour est également notre formation pour briser la résistance de la chair. L'amour de Dieu, c'est grand. Les caractères qui nous aiguisent, qui nous sauvent, qui nous héritent. Pas facile de supporter ça. Quand nous sommes confrontés à des réalités et que nous résistons aux besoins des autres et que le Saint-Esprit frappe à la porte puis qui te dit « investis », la chair est confrontée dans ses convictions. Le livre des Actes nous parle que les apôtres étaient réunis avec l'Église, ils sont là, ils prient ensemble, et les apôtres enseignaient, les gens vendant leurs biens, même pour aider les gens les plus démunis. L'amour était présent. La véritable amour, c'est également la patience. L'amour supporte tout. Est-ce que vous êtes rendu là, vous? Ah, honnêtement, là, pile-moi sa grosse orteil, tu vas voir que... Viens me confronter. Allô? Nos caractères et nos attitudes. Moi, je sais, je vous parle, puis je suis un bouillant de nature, là. Et Manon m'a dit dernièrement un beau compliment. Elle dit, t'es plus doux que t'étais. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai pas fini encore. Alléluia! Mais comment qu'on va faire les choses, la vraie chose? L'Église a grandi dans l'amour. Alléluia! L'amour, ça va nous demander de la patience, ça va nous demander de nous supporter. Je le dis souvent, Seigneur, touche-les avant que je le touche. Seigneur, tu vas te toucher, mais après ça, je vais changer l'autre. Alléluia! L'amour, c'est notre formation pour briser la résistance de la chair. L'amour n'est pas un maximum d'émotion. L'amour, c'est un maximum d'engagement envers l'autre. Alléluia! On va le répéter. L'amour n'est pas un maximum d'émotion. L'amour, c'est un maximum d'engagement envers les autres. Vous savez, porter un fruit, c'est long. Un pommier ne pousse pas dans un avant-midi. Il faut le temps. Il faut le développer. Il faut qu'il se développe. Dans notre texte, Jésus voulait leur faire comprendre ceci, qu'ils devraient se former à la culture du roi, soit de délaisser la façon que le monde fonctionne. Et c'est pourquoi que Jésus nous dit dans Matthieu 20, 26, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et le mot « serviteur », c'est encore plus fort, c'est le mot « esclave ». Si tu veux être grand devant Dieu et devant le peuple de Dieu, commence à servir. Et là, on va comprendre, quand on commence à servir, pourquoi vous êtes critiqué. Servir demande de l'abandon. Servir demande de la patience. Servir demande de la tolérance. Servir demande de la retenue. Vous voulez être pasteur? Bienvenue au club. Vous voulez servir? Bienvenue au club. Vous voulez être dans un comité d'église? Bienvenue au club. Ça va te prendre la patience, ça va te prendre la tolérance, ça va te prendre la retenue. Parce que des fois, tu auras le goût de dire « lui, là, ou elle, là ». Servir, c'est se mettre... Je le dirais en honnêteté, c'est se mettre au service des autres. C'est d'aider les autres. Je dirais que servir, c'est devenir serviteur de l'autre. C'est d'aider les autres. C'est de comprendre les autres. Les besoins sont grands. Deviens ce serviteur aidant au lieu d'être un serviteur critiquant. Allô? Ça vous parle-tu un petit peu, là? Super. Donc, si l'Église veut retrouver un élan, retrouver la forme de l'Église, c'est l'amour. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il n'y a pas personne qui est ici qui est parfait, là. Allô? Quand je rentre, je suis déjà imparfait. L'Église est déjà imparfaite. Je suis loin d'être un gars parfait, là. Puis on est tous en même galère avec ces choses-là. Mais, dans ton imperfection, commence à servir. Je dirais ceci, il y a plus souvent dans une église de chefs que d'indiens. Il y a bien du monde qui ont toutes les solutions. Mais quand c'est temps de s'impliquer, tu ne les vois pas. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. Ou c'est juste pour moi que je vois ça, là. Un vrai serviteur voit les besoins. Pour servir, on devrait être dans la joie. Servir, ça ne devrait pas être un fardeau. Allô? Moi, je me souviens à l'église, dans les premières années qu'on est arrivé à l'Évangile, moi, j'étais partout. Même Manon me dit un jour, « Serge, jette-toi un lit, reste à l'église, c'est mieux à l'église qu'à la maison. » T'as partout. Où qu'il y avait des trous, j'étais là. Où qu'il y avait besoin de quelqu'un, j'étais là. Il y avait du ménage, j'étais là. J'ai fait le ménage dans l'église plus souvent qu'à mon tour. Je bouchais les trous où que je pouvais, les trous, je mets ça. Donc, je me sentais utile. Mais ça m'a frustré parce que j'étais trop impliqué. Mais implique-toi, tu vas arrêter de critiquer. Je crois qu'il n'y aura jamais assez de personnes qui vont s'impliquer. L'Église, ça devrait être une fourmilière. Trouvez votre place, portez les fruits, soyez au service. Personne n'est parfait. Dis avec moi, je ne suis pas parfait, mais je veux servir. C'est comme toujours les mêmes qui font toujours la même chose. C'est général, c'est un cancer général. Il y a de la place si tu veux t'impliquer. Allô? Il y a de la place. C'est un mot qu'on a de misère, implication. Pas grave, l'autre va le faire à ma place. Pas grave. Moi, je vais écouter à la TV, puis lui qui a le suivi à grosse goutte fait du ménage. Moi, je suis bien à la maison. Frères et sœurs, servir le Seigneur, c'est votre plus grand privilège. Aimer Dieu, servir Dieu, c'est votre plus grand privilège. Parce que vous démontrez l'amour que vous portez pour votre famille. Vous démontrez votre engagement à travers votre famille. Et Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Jésus a servi le peuple. Il a été admiré puis il a été détesté, mais il a accompli sa mission. Pour devenir un peuple qui exerce la justice de Dieu, qui veut exercer le bien-être sur la vie des gens, nous devons être au service des autres. La grandeur d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu se voit dans le service et dans l'humilité. C'est pourquoi que Paul nous enseigne, Philippiens 2, versets 4 et 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, qu'est-ce qui est écrit là? Ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, Paul veut motiver l'Église des Philippiens à vivre comme le Seigneur a vécu. Donc, Jésus avait cette attitude qui le gouvernait, c'était son humilité, sa disponibilité pour aider son prochain. Jésus était capable de s'abaisser devant son Père, devant les hommes, qui est devenu ce serviteur humble. Paul nous donne un modèle de comment devenir un serviteur humble. Il faut regarder à l'exemple de Christ. Nous devons porter en nous les sentiments de Christ. Des sentiments, c'est de considérer, pas ses intérêts, mais considérer les intérêts des autres également. Il faut... Jésus a partagé ses sentiments, il nous a partagé de comment suivre ses traces, comme lui-même qui a délaissé sa gloire céleste, comment il a renoncé à son royaume, qui a fait passer son intérêt personnel avant pour faire la volonté de Dieu, en prenant sa corps d'homme. Il a été l'exemple parfait pour chacun de nous. Ça veut dire qu'il faut, je dirais, être égal avec nous. Quand je parle de l'égalité, c'est d'être capable de se servir les uns les autres entre nous. Luc, chapitre 9, verset 23, puis il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix ne peut pas, ne me suit pas et ne peut pas être mon disciple. Pour Jésus, quand il a donné l'illustration que les grands chefs, que les gens qui étaient en position d'autorité, de dominer les gens, toutes ces choses-là, c'est pas la volonté, c'est pas la philosophie de Jésus. Jésus, en réalité, qu'est-ce qu'il a dit à la mère? Jésus, quand il a donné cette parole, il a indiqué à la mère des fils de Zébédée, retenez ceci, le plus grand privilège des fils de cette femme ne sera pas d'être assis à côté de son père, mais d'être le serviteur à qui le père va trouver grâce. Soit de devenir des serviteurs humbles devant les autres. Voyez-vous comment que la mentalité du royaume de Dieu ne fonctionne pas comme moi je peux penser? C'est le Seigneur qui élève les hommes, c'est pas à l'homme à s'élever. La grandeur, je le dis, du service, c'est servir le royaume de Dieu, de mettre en avant vos dons, vos talents, votre implication, porter sa croix. Pour moi, c'est d'être capable de faire passer mes intérêts personnels avant les miens. C'est d'être prêt à renoncer à soi-même pour servir les autres. C'est d'être prêt à renoncer à ses désirs personnels pour suivre Jésus et accomplir ses désirs. C'est d'être obéissant à sa volonté avant la mienne. Si vous voulez être honnête à matin, est-ce que vous raisonnez de cette façon? Posez-vous la question là. Est-ce que je suis capable de renoncer à mon moi, à moi, puis de dire, Seigneur, je fais ta volonté, peu importe le prix, ça va me coûter. Sortir de sa zone de confort. Je dirais plus que ça. Ça demande du brisement, ça demande de la prière, ça demande de l'abandon et ça demande des sacrifices. La grandeur se mesure au service. Celui qui est grand est celui qui se fait serviteur. C'est une grosse leçon qu'on regarde un matin. C'est quoi d'être le serviteur? Être chrétien, c'est un titre d'excellence. C'est un titre au service des autres. Et Jésus nous enseigne, si tu veux être grand, sers les autres. Comprenez-vous? Donc, il faut voir comment Jésus nous voit. Je le répète, un vrai serviteur ne cherche pas les honneurs comme le monde le recherche, mais c'est d'être prêt à faire passer son soi personnel en premier et d'obéir à celui qui nous demande d'obéissance. Sinon, les fruits de l'Esprit se manifesteront jamais dans votre vie. Porter sa croix, c'est l'obéissance. Ça nous parle du changement. Et je vais aller rapide, le temps avance. Éphésiens 4, verset 1 et 2. « Je vous demande instantanément de vous conduire d'une manière digne, Éphésiens 4, verset 1 et 2, de l'appel qui vous a été adressé. L'appel qui vous a été adressé, soyez toujours humble. » Moi, je n'ai pas encore arrivé. Pas mort encore. Aimable. Patient. Se supporter. La maturité chrétienne, quand tu regardes ça, tu te dis, my, dans quoi je me suis embarqué? Va dire ça à un jeune chrétien, il ne comprendra pas ça, là. Quand tu t'embarques avec le Seigneur, tu t'embarques dans tout un bateau. Tu t'embarques à mourir, en réalité. En tant que chrétien, que je porte une nouvelle nature, ma semence, c'est l'amour. L'essence de Dieu. Si vous mettez un grain dans la terre pour un pommier, bien, tu t'attends d'avoir un pommier, avoir des pommes. Donc, la même chose, quand l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu est venu dans votre vie, il a mis un grain. Et le grain, c'était l'amour. Maintenant, cette semence, elle doit se développer. Donc, le Saint-Esprit s'attend d'aller cueillir de l'amour, pas des pommes, de l'amour. C'est le fruit qui doit sortir de votre vie, l'amour. Alléluia! Pour que les gens viennent cueillir sur votre vie de l'amour. Pas du jugement, pas de la critique, pas du chiolat, mais de l'amour. Et qu'on a de misère avec l'amour. Jean 12, verset 24, je termine dans... Donnez-moi 5 minutes, là. « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc, la semence qui a été mise en vous, c'est une semence céleste. Ma nouvelle semence, ma chair, doit mourir. Et la croissance commence avec ceci, Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Renouvellement. Pour grandir, il faut de la transformation. Un chrétien qui ne change pas, qui ne transforme pas, qui n'a pas de fruits, tu as un problème, mon homme. Allô? C'est pas normal qu'après 10 ans, 15 ans, 25 ans, tu as toujours le même problème. C'est pas normal. Quand un chrétien il a une étiquette sur sa vie, c'est un détestable, il faut que tu changes d'étiquette. Allô? Parlons des vraies choses. Et le mot transformer, c'est métamorpho. Et Paul, dans son idée, dans les études, ça veut dire prendre une autre forme, transformer, transfigurer, métamorphoser. C'est l'image qui est empruntée pour une chenille qui va devenir un papillon. Et cette transformation, c'est un développement que la chenille doit mourir pour avoir une nouvelle identité de papillon. Comme nous, c'est un processus qui est en marche. Ma nouvelle naissance, ma nouvelle identité doit être nourrie par l'homme nouveau. C'est ma racine, elle doit prendre vie. Je dois me métamorphoser. Ma vieille chair doit sortir. Alléluia, elle doit mourir pour que le nouvel homme prenne son envol dans le plan de Dieu. Alors, non, il faut qu'il y ait un changement. Dis avec moi, il faut que j'aie du changement. Un chrétien né de nouveau, c'est une vie de transformation. Jean-Baptiste, disons, il faut que je croisse, que je diminue, plus il laisse place au Seigneur, plus que, je vais vous dire honnêtement, là, plus que tu vas servir, plus tu vas voir tes faiblesses. Et plus que tu vas dire, Seigneur, change mes habitudes, change mon comportement, change mes caractères. Si tu veux vraiment servir, c'est par là que tu vas passer. Tu vas passer par le brisement. Mais si tu veux t'engager puis garder toujours tes mêmes attitudes, tes mêmes comportements, tes mêmes caractères, va pas là. Parce que ça va frotter à quelque part, je te le dis, là. Servir demande du changement. Prie, plus que tu pries pour le changement, plus que tu vas avoir du brisement. Plus que tu vas refléter l'amour du Père, plus que tu vas t'enraciner et plus le fruit va sortir. Tu seras comme la cheville, la chenille, ta vieille carapace va mourir. Et l'homme nouveau va prendre place. Jean 15, 2, « Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Vous savez, l'émondeur, moi j'appelle ça l'émondeur, donc dans les vignes, les gars, moi je les ai vus faire, parce que j'ai voyagé beaucoup là-bas, prendre des cutters, ou des couteaux, puis ils vont enlever les branches mortes. Tout ce qui ne porte pas de fruits, les feuilles mortes, les branches mortes, les enlèvent parce que ça empêche la sève de monter qui va donner son fruit. Donc, si on veut garder une vie spirituelle en santé, il faut que le jardinier passe dans votre vie. Il faut qu'il enlève les branches mortes. Allô? Si nous résistons au Saint-Esprit, donc tu vas rester stérile, tu vas rester malheureux par cause de résistance. Vous êtes silencieux. Mais c'est des vérités un matin. C'est des vérités qu'il faut qu'on pense. Le changement est important. Pierre, il dit, croissez dans la grâce de Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu te changer. Si vraiment nous sommes nés de nouveau, vivre dans la culture du royaume des cieux nécessite d'être transformé à l'image du roi. Si réellement le Saint-Esprit vit en nous, on ne peut pas se rebeller contre la parole de Dieu, contre tes frères, contre tes sœurs, ni envers les autres, et se dire heureux. C'est contradictoire, ça ne marche pas. Donc, ce genre d'attitude doit changer. Si nous vivons dans un monde aujourd'hui qui n'est pas facile, Mais moi, en tant que chrétien, je dois développer l'amour, je dois développer la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur et le contrôle de soi. Je dirais en terminant, si vous développez les fruits, les gens vont voir sur vous des différences puis seront intéressés d'aller vers vous. Je ne sais pas si ça peut vous interpeller. Matthieu 5, 16, dernier verset, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les lieux célestes. » Je dirais un matin en terminant cette pensée qui venait en terminant sur le message, je disais, « Seigneur, mets de l'huile fraîche dans ma vie. Que ma lampe soit remplie, qu'elle illumine, que je sois une lumière qui attire les gens afin qu'ils puissent goûter un bon fruit. » C'est bon, hein? Seigneur, que ça brille, que les gens, quand ils vont venir vers moi, vont trouver quelque chose. La plus grande chose que l'homme a besoin, la femme a besoin, c'est l'amour. Si on est capable d'adhérer à ce fruit de l'amour, puis d'être moins dur envers nous, je vous garantis, dans quelques années, votre Église ne sera plus jamais la même. Allô? Amen. Le changement est important dans la culture d'une Église. Et moi, je le crois de tout cœur. Écoutez, rendu quand même un certain âge, je ne suis pas parfaitement encore tout changé. J'ai encore à changer et je suis prêt à changer. Mais vous, êtes-vous prêt à changer? C'est la question. « Oh, moi, je suis confortable. Moi, je n'irai pas plus loin. Je ne ferai pas plus. » Mais êtes-vous prêt à donner plus? Soyez honnête, là. On va se lever. Peut-être que, mon frère Alain, tu peux mettre une musique douce. Je vais finir par la prière ce matin. C'est le message qui brûlait dans le cœur pour vous ce matin. Le processus d'une église, c'est l'amour. Le processus d'une église qui grandit, c'est son activité dans l'amour. Le processus d'une église qui va faire la différence entre bien des autres frères, c'est le comportement que vous donnez de votre église. Ça, il faut que ça change. J'ai déjà dit l'année passée, la couleur de l'église, la façon que les gens voient l'église, c'est à vous à dire, c'est fini ce matin, je change mon comportement, mes attitudes, je veux que mon Église porte un bon témoignage. Combien sont d'accord à dire ça? Change.